Radio Okapi. Le journal Noël Aluzi Tukabambi.
Vital Kamerhe est choisi comme candidat unique de l'Union sacrée pour la nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Il a obtenu hier 183 voix sur les 372 députés votants devant Christophe Mboso et Modeste Bahati. Pour aider la RDC à coordonner les décisions géostratégiques et géopolitiques dans l'exploitation de certaines matières critiques, le Conseil congolais de la batterie recommande à l'État congolais la mise en place d'une task force pour remettre de l'ordre dans l'exploitation des matières comme le cobalt, le cuivre et le coltan. Proposition faite hier à Kinshasa au cours d'un échange avec les experts du secteur des mines. Rodolphe Polita est l'invité de Radio Okapi. Il est le chargé de suivi et évaluation au sein du réseau des associations congolaises des jeunes RACOJ. Il parle de l'approche d'appui à la réponse menée par la communauté RMC pour répondre efficacement aux besoins des personnes déplacées. Bonjour à tous. Élection primaire au sein de l'Union sacrée pour la nation. Vital Kamerhe a été élu hier, mardi tard dans la soirée, candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale. Sur 372 députés votants, Vital Kamerhe a obtenu 183 voix, suivi de Christophe Mboso, 113, et Modeste Bahati Lukwebo, 69 voix. 7 bulletins de vote ont été nuls. Avant son élection, le leader du regroupement politique UNC et Alliés dit que son mandat est inscrit sur la rigueur dans un contrôle parlementaire sans complaisance. Vital Kamerhe est au micro de Michel Kifindangoy.
Je voudrais vous dire avec émotion combien je retrouve ce micro de l'Assemblée nationale. Ça m'a beaucoup manqué. Et en le retrouvant, croyez-moi, je ne vais pas le lâcher. Parce que à l'époque où je l'avais, d'aucuns pensent que j'avais fait tout un mandat, mais c'était 2 ans et 3 mois seulement. Mais on continue à parler de cette belle époque où nous voyons l'honorable Sesanga monter ici, parler à l'aise jusqu'à la fin, et j'appelle Boshab, venez contredire Sesanga. Argument contre argument. Tout en étant loyal au président de la République démocratique du Congo, la loyauté n'exclut pas l'efficacité. Nous allons renforcer le contrôle parlementaire. Chaque mercredi, nous convoquerons les membres du gouvernement secteur par secteur pour suivre l'accomplissement de leur mission.
Toujours à Kinshasa, la synergie des organisations syndicales et sociales encourage la Première ministre à renforcer le mécanisme de lutte contre la corruption. Son porte-parole Jean Bosco Puna l'a dit hier dans une déclaration dont une copie est arrivée à Radio Okapi. Il a également demandé à Judith Souminois d'assainir le système de recrutement dans la fonction publique ainsi que dans les entreprises du portefeuille où le népotisme a gagné du terrain en lieu et place de la méritocratie. Jean Bosco Puna, joint par Blaise Ndonga Lamayanda.
La synergie des organisations syndicales et sociales salue le combat que veut mener Madame la Première ministre, chef du gouvernement, celui de la réduction du train de vie des institutions. Mais pour que son ambition se traduise dans les faits, elle doit premièrement assainir les systèmes de recrutement où chaque ministre qui arrive aux affaires vient donner du travail à ses proches, sans tenir compte des cadres organiques et sans tenir compte des moyens de l'État. Deuxièmement, elle doit faire respecter les textes qui régissent les cadres organiques. Comment voulez-vous une direction qui est appelée à fonctionner avec 30 agents puisse compter aujourd'hui 3000 agents qui viennent surcharger l'État inutilement? Troisièmement, elle doit renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption pouvant lui permettre d'élaborer une politique salariale équitable à tous les agents de l'État. Mais enfin, elle doit instaurer la sanction, sévir les prédateurs quand il le faut.
L'État congolais doit mettre en place une task force pouvant remettre de l'ordre dans l'exploitation des matières dites critiques et stratégiques comme le cobalt, le cuivre et le coltan. C'est la recommandation formulée par le Conseil congolais de la batterie hier au cours d'un échange organisé à Kinshasa avec les experts du secteur minier. L'objectif étant d'aider la RDC à coordonner les décisions géostratégiques et géopolitiques dans le dit secteur. Un reportage de Murphy Fika.
Durant les échanges, les experts du secteur des mines réunis autour du Conseil congolais de la batterie ont d'entrée des jeux passé en revue l'état des lieux de leur secteur. Pour les coordonnateurs de cette structure, Daniel Banza Kasongo, la mise en place d'une task force va mettre un terme à l'imbroglio qui affecte ce secteur, source de convoitises, de multinationales et de conflits en RDC.
Quand un Américain vient parler avec nous, on envoie au niveau du ministère des mines, ils vont envoyer un Français au ministère de l'Environnement et un troisième au niveau du ministère de Travail qui sera, par exemple, un Suédois. Vous avez l'impression que vous parlez à trois personnes différentes et nous ne savons pas que ces trois personnes viennent de manière coordonnée. Donc si nous n'avons pas cette approche en sachant exactement qui fait quoi et quelles sont les décisions prises, à chaque fois nous allons nous retrouver avec des difficultés parce qu'on n'anticipe pas et pour anticiper, il faut s'informer.
Pour sa part, Elvis Kasongo Isasi, chercheur et géologue, estime que la RDC doit également passer par un contrat minier gagnant-gagnant.
Dans l'avenir, les différents contrats qu'on aura, qui auront rapport avec ces minéraux-là, puisse se faire en possession de nos connaissances, de nos moyens et des techniques, et ce ne soit pas de contrat où on nous impose des choses.
Le Conseil congolais de la batterie pense que les minerais stratégiques dont regorge la RDC sont essentiels à son économie et à sa sécurité. Fort malheureusement, ce sont les multinationales qui en tirent véritablement profit.
Et puis dans l'espace Grand Katanga, 32 infrastructures sociales, dont 14 dans le Lualaba et 18 dans le Haut-Katanga, sont en phase de construction. Il s'agit entre autres des écoles, des centres de santé et des centres de rattrapage scolaire. C'est dans le cadre du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, Pabea Cobalt, un projet du gouvernement de la RDC financé par la Banque africaine de développement. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidaire nationale, Modeste Mutinga, a posé lundi à Kolwezi la première pierre symbolique pour toutes ces constructions. C'était en présence du représentant de la gouverneure du Lualaba, du task manager du projet Pabea Cobalt au sein de l'ABAD, ainsi que de la directrice du Fonds national de promotion et de services sociaux, Alice Mirimo Kabeti. Au micro de Jean-Marc Matwaki, Alice Mirimo explique l'importance de ces infrastructures.
En plus donc du centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness, dont la construction est en phase finale à Kamoa, dans le territoire de Muchacha, en vue de l'encadrement des parents des enfants sortis des mines qui seront structurés en coopérative, le lancement à ce jour des travaux de construction des infrastructures sociales vient compléter la liste des structures prévues dans le cadre du PABEA Cobalt. Et bientôt, nous allons venir lancer les travaux de construction d'une école de formation professionnelle, un centre de formation professionnelle, un métier agricole, un métier minier artisanaux, en coupe-couture et en d'autres métiers. Parce que nos jeunes, les parents, qui sont les parents de ces enfants, les jeunes qui ont accepté aussi de quitter les mines, doivent aussi se professionnaliser pour que nous ne puissions plus recourir à une main-d'œuvre étrangère.
Au Nord Kivu, c'est une trentaine d'agents de l'État, notamment des inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale du travail affectés au Nord Kivu, qui déclarent être dans l'incapacité de rejoindre leur poste dans les différents territoires pour certains et même pour s'installer à Goma pour d'autres, afin de commencer leur travail. Dans une déclaration écrite adressée au président de la République, ces jeunes inspecteurs fraîchement recrutés et affectés sollicitent l'implication de l'Inspection générale du travail afin que la question de leur prise en charge soit vite décantée au niveau des ministères des Finances et du Budget. Lavi Bakungu, l'un d'eux, explique ici leurs difficultés.
Nous sommes les collectifs des nouveaux inspecteurs, contrôleurs du travail et agents administratifs nouvellement recrutés et affectés au Nord Kivu. Et nous avons adressé un mémo au président de la République pour que nous puissions être pris en charge, parce que nous devons rejoindre nos postes d'attache. Certains ont déjà rejoint ces postes d'attache, mais pour l'instant, nous sommes sans aucun sou. Nous n'avons pas eu de moyens d'installation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de demander juste la prise en charge des salaires, mais aussi la prime. Nous avons demandé à travers les mémoires que nous avons adressés au président de la République. Par exemple, moi, je vis à Goma, mais on m'a affecté à Lubero. C'est pour aller à Lubero, il y a beaucoup de détours que l'on doit faire vu le contexte sécuritaire de la province. Et il y a aussi certains qui sont affectés à Beni, Beni territoire, Beni ville. Il y a d'autres qui sont affectés à Butembo. Et nous avons besoin de moyens financiers pour nous installer.
Les habitants de plusieurs quartiers de la commune de Vulamba, ville de Butembo, ont été sensibilisés lundi sur leur implication dans la lutte contre l'insécurité dans la ville. C'était au cours d'un dialogue social initié par la société civile de cette municipalité avec les autorités locales et des leaders communautaires. La population a été appelée à collaborer avec les autorités et les services de sécurité pour mettre fin à la criminalité observée depuis quelques mois dans la commune de Vulamba. Jean-Baptiste Moussaï, président de la société civile locale, explique au téléphone de Grévis Salomon.
C'est depuis quelques mois qu'il s'observe une résurgence de la criminalité caractérisée par des cas de braquage et assassinat dans la partie nord de la ville de Butembo. Qu'à travers cette activité, plusieurs bandits habitant parmi les populations vont se convertir et le degré de la perversion sera sensiblement réduit. Dans le but de pallier ces problèmes qui tapent à appauvrir les victimes et à mettre fin à la vie des autres par des bandits, il a été formulé plusieurs recommandations, entre autres, à l'autorité urbaine de mettre en place des mécanismes nécessaires de ramassage des armes et munitions, de s'impliquer en vue de mettre fin au phénomène de braquage, à la population d'identifier et de dénoncer toute personne suspecte.
Nord Kivu encore, le Parlement des jeunes de Beni appelle à l'implication des autorités pour mettre fin à l'attaque des écoles par des manifestants. Lundi et mardi, des groupes de jeunes qui disaient protester contre l'insécurité ont fait irruption dans certaines écoles de la ville de Beni et ont attaqué les élèves avec des projectiles. Une situation jugée inacceptable par le Parlement des jeunes de Beni qui rappelle que les écoles sont des espaces inviolables. Son président, Samuel Do Katembo Sekanabo, demande aux autorités d'interdire toutes les manifestations qui ciblent les écoles dans la ville de Beni. Il est au micro de Martial Papimukeba.
Parlons par exemple de l'esthétique Kisungu qui a été cible de ces manifestations où un élève a été touché par une pierre. Ils étaient porteurs de front, les lasses pierres. Et mêmement au niveau de l'esthétique Bungulu, ils ont accédé dans l'angle de l'institut. Il y a échange de projectiles entre manifestants et élèves. Pourquoi les écoles sont la cible de ces manifestants? Est-ce que ce sont les écoles qui sont à la base de la sécurité pour aller troubler la quiétude de ces enfants qui étudient? D'abord à la jeunesse. Est-ce que la façon dont nous sommes en train de revendiquer nos droits, c'est une façon qui est propice pour le faire? Est-ce que c'est pas ces manifestations que nous avons trouvé la solution? Il n'y a pas moyen de revendiquer autrement que ce que nous faisons. Mais aussi à nos autorités, lorsqu'il faut qu'on entre dans des écoles, ce sont des milliers qui sont inviolables. Est-ce qu'il y a moyen d'empêcher ces manifestations de continuer? Les écoles doivent rester inviolables. Et pour que ces écoles restent inviolables, l'autorité doit s'impliquer.
La 61e journée internationale du livre et du droit d'auteur, c'était hier, 23 avril, dans la ville de Bunia, en Ituri. De nombreux élèves rencontrés disent avoir perdu carrément le goût de la lecture des livres, sur support papier notamment. Ils préfèrent s'informer à travers d'autres canaux, comme la télévision ou leur téléphone portable. D'autres, en revanche, continuent la lecture des ouvrages dans des bibliothèques, malgré l'usage du numérique et l'avancée des nouvelles technologies. Ezekiel Mousalia a rencontré certains élève de l'IDAP ISP pour savoir quel intérêt il tire de la lecture des livres.
En tout cas, le sens que je vais donner à cette journée, ça essaie un peu de nous interpeller sur l'importance de la lecture. Sérieusement, je vous dis, monsieur, j'ai commencé à lire, ça a développé même ma façon de parler, de réfléchir, beaucoup de choses.
Souvent, quand on manque de choses à faire, on a l'habitude de prendre les livres pour se distraire. C'est juste, on est en train d'apprendre à lire, parce que certainement, quelque chose qu'on lit reste dans la tête. Les livres gardent toujours ce sens. Et quand on a la lecture, on a 11 têtes. Tu as ta tête et puis tu as la tête des 10 écrivains.
Ça nous rappelle vraiment nos origines. L'importance de lire, c'est que ça nous transporte vraiment dans des dimensions qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Donc, c'est plus que pour moi. Je considère que les livres est plus que même un téléphone.
J'avais souvent l'habitude de lire. Un peu, oui, surtout que de l'école, nous rattrapons en retard. Là, on...
Je lisais avant ces derniers temps, je cessais de lire. Avant, je retirais des livres à la bibliothèque. Ces derniers temps, je n'ai pas de temps pour aller récupérer des livres à la bibliothèque.
On est content de célébrer cette journée internationale du livre et des droits d'auteur. On est tellement content.
Actualité internationale.
Au Liban, le mouvement islamiste libanais Hezbollah a annoncé hier soir avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël en représailles à la mort de deux civils dans le sud du pays dans une frappe imputée à Israël. Pendant ce temps à Gaza, après plus de 200 jours d'affrontement, la guerre ne donne aucun signe de répit. Ce mercredi, des frappes ont continué dans le territoire palestinien. De son côté, le Sénat américain a approuvé une aide de 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël afin notamment de renforcer son bouclier antimissile Dôme de fer déployé à ses frontières.
L'invité
de ce journal, c'est le chargé de suivi et évaluation au sein du réseau des associations congolaises des jeunes RACOJ. Radolphe Polita nous parle de leur approche d'appui à la réponse menée par la communauté RMC que son organisation applique pour répondre efficacement aux besoins des personnes déplacées. Approche présentée samedi dernier à l'ambassadeur d'Allemagne à RDC, l'Allemagne étant un de leurs donateurs. Qu'est-ce que cette approche RMC et quel bilan dressé depuis qu'elle est mise en application? Réponse de Rodolphe Polita dans cet entretien avec Bernardin Nyangui.
Monsieur Rodolphe Polita, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Dans l'exécution de vos projets, il y a l'approche RMC. Ça veut dire quoi d'abord?
L'approche RMC veut dire réponse menée par la communauté. Au fait, c'est un ensemble des actions ou des initiatives, voire des projets qui peuvent être écrites, qui peuvent être défendus ou encore faire objet de plaidoyers auprès des partenaires RACOJ que nous sommes et qui peuvent être appuyés en termes financiers, en termes d'accompagnement par les RACOJ pour aider les communautés elles-mêmes à mettre en œuvre ces actions ou ces initiatives dans leur communauté et ainsi répondre à certaines crises de manière locale, ce qui permet à la communauté d'avoir une certaine capacité de résilience ou de faire face à une crise, mais aussi d'accroître un tout petit peu la cohésion entre les communautés, parce que lorsque les communautés se mettent ensemble pour identifier leurs problèmes, se mettent ensemble pour rédiger des micro-projets afin d'obtenir des micro-subventions et mettre en œuvre ces projets, c'est quelque chose de bien qui leur permet de passer du temps ensemble, de réfléchir ensemble et de voir comment ils peuvent faire face à leurs problèmes ensemble.
Alors, le RACOJ a développé un projet avec une ONG locale, un groupe engagé pour le développement intégral, qui exécute un projet de signalisation des endroits où il y a la forte concentration de mazouk ou COD qui constitue une menace pour le déplacé et aussi les locaux. Est-ce que cette approche est-elle appliquée?
Effectivement, il y a eu des alertes sur plusieurs morts per Boulengo causées par ces environnements pollués par ce gaz qui s'appelle mazouk. Et nous avons reçu, dans le cadre d'un projet d'amélioration de la résilience de la population de Boulengo et de Moudja face à la crise actuelle dans le Nord Kivu, un micro-projet soumis justement par cette organisation pour mettre des panneaux de signalisation au niveau de ces sites qui contiennent des mazouk. Et nous avons jugé que c'était un projet pertinent et ce projet-là a été validé par les membres de la communauté. Et nous avons mis les moyens à ces groupes pour pouvoir mettre ces panneaux qui vont informer les communautés sur les dangers qu'ils courent en parcourant ces zones-là et ainsi réduire tant soit peu l'impact.
À part peut-être ce projet, y a-t-il un autre qui peut servir d'un cas où il y a eu un bon succès en mettant en application cette approche?
Avec notre partenaire Diakoni, il y a ce projet-là d'amélioration de la résilience de la population que nous avons à Boulengo et à Moudja. Mais nous avons aussi, dans le cadre d'un autre programme que nous avons avec Diakoni, le programme Together, qui vise justement à renforcer les capacités des organisations locales. Nous avons donc un projet OIFA que nous mettons en œuvre à Don Bosco et que nous avons aussi dans le passé mis en œuvre à Moudja, où nous avons également abordé le projet avec cette même approche des RMC et nous avons vu des communautés qui ont soumis par exemple des projets d'installation de points d'eau dans les villages de Kanyati, par exemple, qui avaient des sérieux problèmes d'approvisionnement en eau potable. Et à ce jour, Kanyati n'a plus de problème d'eau parce que la communauté s'est arrangée à installer des tanks et à ravitailler de manière régulière avec de l'eau potable pour servir la population. Nous avons dans les villages de Ngangi 2 un groupe communautaire, par exemple, qui a soumis un projet pour lui permettre d'équiper son centre de santé avec des lits et des matelas de manière à permettre aux malades d'avoir un environnement approprié pour se faire soigner.
Est-ce que ce n'est pas que bon, vous donnez l'argent et c'est tout, il n'y a pas autre chose?
Non, non, nous ne donnons pas que l'argent. Il y a cet appui financier que nous apportons aux groupes communautaires ou aux organisations locales ou communautaires. Mais il y a aussi tout un paquet d'accompagnement que nous donnons aux communautés. Il y a
dans le même cadre de cette approche.
Justement, dans le même cadre de ces projets, il y a des mécanismes de renforcement des capacités des organisations sur les capacités managériales, sur la gestion des projets. Comment est-ce que lorsqu'ils reçoivent ces projets, ils doivent les gérer sur le plan opérationnel? Nous apportons aussi un appui en outils pour une gestion technique ou financière. Et jusqu'à présent, je pense que la communauté se comporte bien au niveau de notre province de Nord-Kivu.
Monsieur Rodolphe Polita, merci.